Le texte de prédication de ce dimanche est tiré dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 39 à 44. Le thème est l'autorité de Jésus. Le prédicateur est le révérend docteur Aimé Moussonga. La lecture sera faite par la diaconesse Evelyne.
Évangile de Jean, chapitre 11. Versets 39 à 44, il est écrit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen.
Amen. Alléluia. Alléluia. D'accord. Je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, il y a quelque chose qui caractérise le culte ce matin, c'est la joie. Chanter, danser, cette joie qui remue le trône de Dieu. Parfois, quand on entre là, on vient avec des soucis, avec des tristesses. Mais la joie de Dieu, dès que tu es en contact avec lui, ça remplit ton cœur. Ce matin, quand tu sors, peut-être que jusqu'au sorti d'ici, il y aura une parole qui va te toucher. Un geste, une mine, ne perds pas ta joie au nom de Jésus. La joie de l'Éternel est ma force. Il y a un monsieur, il était riche. Il était vraiment riche. Et puis pendant que les jeunes faisaient l'évangélisation, ils sont passés devant sa maison. Comme c'était une grande et belle maison, ils ont eu peur. Ah, ici là, il ne faut pas toquer. Et l'autre était un peu courageux, il dit, ah, il faut toquer. Ils sont venus et puis il a commencé à appuyer la sonnerie qui était là. Quelqu'un vient ouvrir. C'était les jeunes qui évangélisaient. Il dit, nous voulons vous parler de la parole de Dieu. Et le monsieur les fait entrer. Il s'assoit. Et avec le zèle, il commence à prêcher la parole à ce monsieur. Vous savez, il y a un vide en l'homme. Seul Jésus peut combler. En fait, il avait des biens. Mais il y avait le vide en lui. Il sentait que le vide là grandissait et rien ne pouvait combler ce vide. Et ce jour-là, il a reçu la parole. Il a commencé à réfléchir, mais pourquoi pas accepter ce Jésus s'il peut m'apporter la paix? Et puis il a accepté Jésus. Et puis on faisait des études bibliques chez lui, ils ont continué à faire le suivi. Chaque jour qu'on partait chez lui, il sentait Jésus qui prenait plus de place. Ses biens ne pouvaient pas combler le vide qui était là. Il a reçu le Seigneur, il a dit avec Jésus jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort. Il ne peut pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. J'espère que tu comprends ça. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 jamais. Je ne peux pas laisser
Jésus.
Je ne peux pas laisser.
je ne peux pas laisser Jésus. C'est ce Jésus que je veux parler ce matin. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de Lazare? Alors, l'événement se passe juste une semaine avant la mort de Jésus. C'est le dernier miracle public de Jésus. Et certains disent que c'est le plus grand miracle de son ministère. Jésus est en train d'aller vers sa mort. Et là, il y a quelque chose qui se passe à Béthanie. Ce miracle se passe à Béthanie. Béthanie veut dire une maison d'affliction où il y a la détresse, où il y a la tristesse. Oui, il y a des maisons où il y a la tristesse. Il y a des maisons où il y a la déprime. Ça ne vient pas de toi, c'est les gens qui causent cela. Ou soit, je suis à l'origine de cela. Mais je veux que ce matin tu écoutes ce que Jésus va faire dans cette maison d'affliction. Là où il y a l'affliction, Jésus apporte la paix. Là où il y a l'affliction, Jésus apporte la consolation. Alors reçois la consolation au nom de Jésus. Et inonde ton cœur ce qui se lève contre toi, comprenant que Jésus est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Alors il est écrit, Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Jésus aimait Lazare. Cette famille connaissait Jésus parce qu'il avait déjà fait des visites pastorales là-bas. Il est parti à maintes reprises, on l'avait reçu. Et il y avait donc une relation très particulière avec cette famille et Jésus. Et Jésus aimait Lazare, il aimait Marthe, il aimait aussi Marie. Notre relation avec Jésus, c'est ça la première chose. Jésus aimait. Alors, pour ceux qui étaient ici à la nuit de prière, on a prêché sur l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, l'amour de Dieu sur toi, ce n'est pas à cause de ta condition sociale, mais c'est à cause de lui-même. Jésus t'aime. Alléluia. Je veux que tu comprennes ce matin que Jésus t'aime. Peu importe ta maladie, même si tu as avorté, Jésus t'aime. Même si tu as tué, Jésus t'aime. Même si tu n'as pas là, tu es pauvre, Jésus t'aime. Il ne t'aime pas à cause de ce que tu es, mais il t'aime à cause de son amour pour toi. Alors ce matin, il faut que ton cœur s'ouvre et que tu reçois l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu est dans toi, tu donneras l'amour aussi. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu me demandes 10 000 et que j'ai 5 000, je ne peux pas te donner 10 000. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas donner l'amour. C'est pour ça que dans certains couples, il n'y a pas l'amour. Pourquoi? Parce que dans son enfance, il n'a pas reçu l'amour. Ses familles l'ont rejeté, il n'a pas eu l'amour. Et quand il vient dans le mariage, il ne peut pas donner l'amour. Or, nous oublions que ça, c'est l'amour du plan humain. Mais si l'amour de Dieu entre dans ta vie, Jésus entre dans ta vie, tu donneras l'amour à ton prochain. Alléluia. Que ce matin, cet amour nous accompagne. Il est écrit au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Un homme malade. Lazare était malade. Alors, bien que Jésus nous aime, ça n'épargne pas que nous puissions être malades. Jésus aimait Lazare, mais la maladie est venue dans sa vie. Et c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, nous pouvons être malades. Nous pouvons avoir des situations difficiles. On ne veut pas dire que Jésus ne m'aime pas. Jésus m'aime toujours. Il était malade. La situation s'empirait. Fièvre, après convulsion, ça commence à monter. Les sœurs ont peur. Marie et Marthe ont peur. Ils vont donc envoyer le message à Jésus pour lui dire, « Celui que tu aimes est malade. » Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Il joue sur l'amour. Celui que tu aimes est malade. Alors fais vite, cours, viens le sauver, viens le guérir. Nous avons fait ce genre de prière. Hein? Oh, tu amour Jésus. Toi qui m'aimes à l'infini, agis dans ma vie, fais. Et puis Jésus ne fait pas. Donc Jésus ne m'aime pas. Le prédicateur de la nuit de prière disait, instantanément, est-ce que Jésus m'aime à cause des problèmes? Peut-être que tu t'es posé aussi la question dans les problèmes. Est-ce que Jésus m'aime? Celui que tu aimes est malade et Jésus ne vient pas. La réaction de Jésus est très surprenante. Jésus dit ceci au verset 4. Après avoir entendu cela, c'est-à-dire quand on lui a dit que celui que tu aimes est malade, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu se manifeste afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Alléluia. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais c'est le biais par lequel le Fils de l'homme se dit, moi, Jésus, je serai glorifié. Il y a des situations qui peuvent venir dans nos vies pour que Dieu se glorifie. Alors nous murmurons, nous pleurons, nous Dieu mauvais. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il peut permettre des combats, il peut permettre des maladies, il peut permettre le célibat, il peut permettre la stérilité. Mais dans toutes ces choses-là, il va se glorifier. Alléluia. Si nous gardons la foi, il va se glorifier. De même, il y avait l'histoire de l'aveugle né dans Jean 3. Ce monsieur est né aveugle. Et puis, dans la conception juive de l'époque, quand tu es malade, tu es pauvre, ça veut dire qu'il y a un péché, tu es maudit. Ou il y a un péché qui est derrière ton problème. Voilà pourquoi les disciples vont dire à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents? Jésus dit, personne. Mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Alors, tu peux avoir l'assurance que dans ton problème, la gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Ça va se manifester parce qu'il est Dieu. Il a dit ici, là. Alors, pour que la gloire de Dieu se manifeste, afin qu'il soit glorifié. Pendant qu'il est en train de travailler, le message est venu. Celui que tu aimes est malade. La réaction de Jésus est surprenante. Jésus ne court pas, mais Jésus fait d'abord le ministère là où il est. C'est le quatrième jour qu'il va se déplacer. Pourquoi Jésus ne s'empresse pas? Jésus est calme. Il y a des priorités. La priorité pour Jésus était d'abord de sauver les âmes, de recevoir la parole de Dieu. La fête de Lazare, je vais gérer. Mais ici, là, je dois faire. Alléluia. On doit avoir des priorités dans la marche avec Dieu. Quelle est d'abord ta priorité? Si c'est sauver les âmes, alors fais de ça ta priorité. Et Jésus laisse cela passer. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. 2 jours encore. En même temps ici, Jésus travaille le fruit de l'esprit en nous qu'on appelle la patience. Ah oui, la patience. Seigneur, je veux que tu fasses. Jésus ne fait pas. Et puis je commence à dire, est-ce qu'il est? Non, il travaille la patience. Vous savez, pour que Dieu travaille quelque chose dans ma vie, il faut qu'il permette une situation. C'est-à-dire, pour que Dieu travaille le pardon dans ma vie, il faut qu'il permette qu'il y ait l'offense. C'est parce qu'on va m'offenser que je veux manifester le pardon. Si on ne m'offense pas, comment je vais pardonner? Donc Dieu peut permettre cela. Dieu permet aussi que la situation perdure pour travailler la patience en moi. Et quand tu es patient, c'est l'un des fruits. Ce matin encore, peut-être que ton problème dure, mais je veux que tu comprennes que Dieu travaille la patience en toi. Et quand tu es patient spirituellement, tu deviens mûr. Tu deviens un homme assis dans la foi. Tu deviens un mature dans le Seigneur. Il travaille la patience. Oui, j'ai déposé les dossiers. Depuis là, j'attends que le directeur m'appelle. Il ne m'appelle pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, c'est le temps. Il ne fait pas avant, il ne fait pas après, mais il fait juste. On dit ça dans une autre langue, notamment le grec, le temps parfait de Dieu, le kéros, le temps parfait. Donc, lorsque le temps fut accompli, Jésus vint. C'était le temps de Dieu. Donc, lorsque le temps est accompli dans ta vie aussi, Jésus va faire. Alléluia. Tu dois seulement attendre et il travaille la patience en moi. Ce qui nous fait tomber souvent, c'est le manque de patience. Regardez Saoul. Il part en guerre. Les Philistins sont en face de lui, en train de le combattre. Et puis lui, il regarde l'armée, les gens commencent à partir. Il ne peut pas faire le sacrifice parce que c'est réservé à Samuel, qui était sacrificateur. Il est perturbé, puisque l'armée part.
on va nous tuer. Qu'est-ce que je fais? Écoute, je me fais violence. Hein? Je sacrifie. Dès qu'il fit le sacrifice, qu'est-ce qu'il est écrit? Samuel, juste un petit temps pour la patience. Voilà ce qui a coûté le pouvoir à Saoul. Il a manqué de patience. Samuel lui dit, tu as agi en insensé. Aujourd'hui, Dieu te détrône. La patience, le manque de patience peut faire que je manque beaucoup de bénédictions au Seigneur. Nous devons garder la patience. Et ici, de même, Dieu travaille la patience dans la vie des deux sœurs. Et effectivement, elles ont eu cette patience. Quand Jésus arrive, au verset 21, il est écrit, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et c'est la même chose que Marie aussi va dire à Jésus au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu eusses été ici. » Les deux sœurs ont dit la même chose. Donc ça veut dire qu'elles conversaient entre elles. « Oh, si Jésus était ici. » Oh, si Jésus était ici, il allait guérir mon frère, il allait même donner la vie à mon frère. Mais c'est juste une question. Est-ce que Jésus les a oubliés? Je n'ai pas suivi. Est-ce que Jésus les a oubliés? Je voudrais que la prédication soit maintenant un dialogue en cause. Non! Si tu étais ici, ça montre le désespoir. Ça montre la tristesse. Le voici qui l'a couché. Oh, si tu étais là, Jésus, est-ce que tu n'as jamais dit ça? Si tu étais là, tu allais changer les choses. Regarde, tu as laissé 4 jours avant de venir et maintenant il est mort. Tu es resté silencieux, on a envoyé la nouvelle. Toi, tu t'étais, tu es resté silencieux. Mais ce matin, je veux te dire, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Alléluia. Alléluia. Dieu n'oublie personne. Il connaît mon problème plus que moi-même. Moi, je vois ce qui est superficiel. Lui, il voit le fond. Je suis malade. Oh, Seigneur, je suis malade. J'oublie que ma maladie, c'est une attaque. Jésus sait que c'est une attaque. Moi, je vois seulement la fièvre qui monte. Donc, il connaît mieux ton problème que toi-même. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié,
il t'aime encore.
Jésus ne t'a pas oublié,
il t'aime encore.
Oh, Jésus ne t'a pas oublié,
il t'aime encore.
Écoute, il ne t'a pas oublié,
il t'aime encore.
Dans ta maladie, il ne t'a pas oublié,
il t'aime encore.
Dans ta problème, il ne t'a pas oublié,
il t'aime encore.
Jésus ne t'a pas oublié. Quand ton heure va arriver, tu éclateras aussi de joie parce qu'il va faire dans ta vie au nom de Jésus. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Oui, ton temps va arriver comme le temps de Lazare était arrivé. Alors, dans cette conversation, quand Marthe vient vers Jésus, ils vont causer. Oh, si tu étais ici! Jésus lui dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Moi qui suis devant toi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Est-ce que tu crois cela? Marthe dit, je crois. Elle continue, je crois même que tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire tu es le Messie. Tu peux tout faire, même mon frère, tu peux le ressusciter. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Que la vie entre en ton problème au nom de Jésus. Là où tu souffres, que la vie entre au nom de Jésus. Il est la vie. Il donne la vie aux ossements desséchés. Il peut donner la vie à mon problème aussi. Et c'est ça qu'il va donner la vie à Lazare. Et Marthe va croire que le Seigneur peut le faire. Alors, ça finit avec Marthe. Marthe rentre et va appeler sa sœur Marie. Marie. On va lire un peu 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba. C'est ça. Il y a une différence entre l'attitude de Marthe et de Marie. On fera une prédication plus tard. Marie est toujours au pied de Jésus. C'est Marie qui était assise pour écouter la parole d'eux. Et Marthe va dire, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Et quand ici, vous voyez, quand Marthe est venue vers Jésus, elle ne s'est pas agenouillée. Hein. Mais quand Marie vient, elle tombe. Parce que sa sœur lui a dit, il est là, il t'appelle. Jésus est...
Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Jésus est... Ce n'est pas la Bible, je parle de la réalité. Là où tu es assis là, Jésus est...
Il est là.
Il est là. Il est encore. Il est. Il est.
J'ai pas suivi.
Il est là. Il est là.
Mon Jésus.
Il est là. Il est là.
Chante avec moi.
Il est là. Il est là.
Sois rempli de joie. Parce que Jésus est là.
Il est là.
Dans mon problème, quand je souffre,
il est là, il est là.
Dans mon célibat, quand je murmure,
il est là, il
est là. J'ai trouvé
l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus.
Toi, tu as trouvé qui?
J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus.
Oh, il est là.
Il est là. Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là.
Il est là. Il est là.
Alléluia. Il est là. Et ça me suffit, parce qu'il est là. Quand il est là, il va agir. Quand il est là, il va bénir. Quand il est là, il va guérir. Quand il est là, il va délivrer. Alléluia! Jésus est là. Pourquoi tu as peur? Jésus est là. Et quand Marthe aussi va venir, il va converser avec Jésus. Et Jésus va dire à Marie, où l'avez-vous mis? Et Marie dit à Jésus, viens et vois. Jésus vient donc au sépulcre. C'était une grotte taillée, fermée par une grosse pierre. Jésus vient au sépulcre. Oui, Jésus vient. Oh, ce Jésus, il vient toujours. Dans ma situation aussi, il vient. Dans mon problème aussi, il vient. Et le voici qui est en train d'aller au sépulcre, au tombeau. Et pourquoi il regarde le tombeau? Il regarde la grotte.
Il est ému de compassion. Et là, il pleure. Hein? Le verset le plus court de la Bible, sujet, verbe, Jésus, Jésus pleura.
Et les gens vont dire, mais pourquoi il pleure? N'est-ce pas celui qui fait des miracles? Pourquoi il n'a pas sauvé ce monsieur-là? Les gens vont toujours parler dans ton cas aussi. Les gens vont murmurer, ils vont dire ce que tu n'as pas fait. Mais reste concentré sur Jésus. Alléluia. C'est tout, c'est tout. Pourquoi Jésus pleure? Jésus partage la douleur de Marthe et de Marie. Ce qu'on appelle la compassion. Dans ton problème aussi, Jésus compatit. Il partage ta douleur. Et là, Jésus pleure. Et Jésus va commencer à dire
ce qui est important
plutôt. Il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Bien que Jésus pleure, ses pleurs ne sont pas charnels. Il y a des pleurs charnels. Je pleure parce que, hein, je parle souvent des jeunes, hein, entre eux, on m'a déçu, il est parti, je lui avais donné mon cœur. C'est vrai ça? Donc là où tu es là, tu n'as plus de cœur quoi. Il m'a fait passer tout mon temps. Voici 4 ans que j'attendais, à la fin dès qu'il a son diplôme, il est parti. Et puis tu pleures. Tu oublies que Dieu t'a délivré d'un carnage. Ce monsieur devait être un lion dans ta vie. Mais ça sont des pleurs charnelles. Depuis quand tu vas pleurer ce monsieur-là, change ton cœur. Il faut pleurer devant Dieu, comme les larmes de Anne. Elle souffrait et devant le Seigneur, elle était agenouillée. Et là, les larmes coulaient. Jusqu'à quand, Dieu? Jusqu'à quand tu ne feras pas? Et Dieu dit, j'ai exaucé ta prière. Alléluia. Quand nous pleurons devant Dieu, avec les larmes spirituelles, Dieu exauce. Ne pleure pas parce qu'on t'a chassé d'un travail. Dieu va te donner mieux que ça au nom de Jésus.
Pleure parce que tu veux que Dieu agisse. Pleure parce que tu veux que Dieu change les choses. Les pleurs spirituelles, c'est ça que Dieu veut. Et quand Jésus pleure ici là, ce sont les pleurs spirituelles. Alléluia. Jésus pleura.
Nous devons donc avoir. Maintenant, on va voir le processus du miracle. Comment ça se passe? Bien. Quand Jésus arrive, j'ai dit c'était une grotte et puis la pierre est fermée. La première chose, Jésus dit au verset 39, nous avons lu cela. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Il y a deux explications dans la phrase de Jésus. La première, Jésus est Dieu. Il peut dire,
Pierre, allez, quitte. La pierre aussi quitte. Mais il a dit, vous là, ôtez-la. Ça veut dire quoi? Jésus ne peut pas faire ce que toi tu peux faire. C'est-à-dire, ressusciter Lazare, les gens ne peuvent pas. Mais ôter la pierre, ils peuvent le faire. C'est pourquoi tu vas rester là, en train de pleurer, de jeûner. Il faut qu'il ait la prière soit liée à l'action. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu as jeûné, prié pour que tu aies le travail. Mais tu ne te déplaces pas pour aller voir la société. Tu n'auras pas le travail aussi. Tu dois faire ta part. Prends ton dossier, va déposer. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher le cœur du directeur. Et c'est lui qui va t'appeler que viens, viens, viens. Il faut que l'homme fasse ce qu'il doit faire. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas pleurer. Si tu continues à pleurer sans faire ce que tu vas faire, toute ta vie tu vas pleurer. J'ai un témoignage qui m'a fait beaucoup béni. C'est un pasteur. Il commençait le ministère. Il priait beaucoup, Seigneur, donne-moi la direction du ministère. Je veux pas aller par moi-même. Oh Dieu, assis, manifeste-toi. Pendant qu'il priait, il a eu une vision. Le Seigneur est apparu devant lui. Jésus apparaît comme ça. Et puis Jésus lui parlait. Il était dans la vision, mais il était conscient. C'était comme une réalité. Et donc, il est en train d'écrire ce que le Seigneur lui disait par rapport à son ministère. Commence ici, là. Évangélise ici. Va ceci. Fais, fais. Il écrivait. Subitement, un démon est venu entre lui et Jésus. Au milieu, là. En train de faire des gestes. Il n'écoutait plus ce que Jésus disait. Il est troublé. Il regarde Jésus de l'autre côté. Jésus ne fait que parler. Mais il ne comprend pas. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu dis. Jésus ne fait que parler. Parler. Il était rempli de colère. On appelle ça la colère sainte. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas la croire. Va taper ton frère. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. La colère. Les enfants de Dieu doivent parfois être animés de la colère sainte. Jusqu'à quand ce problème demeure. Il faut que je commence maintenant. Alors il a dit à ce démon-là, je te chasse au nom de Jésus. Le démon est parti. Jésus parlait. Et il dit à Jésus, mais pourquoi tu n'as pas chassé le démon alors que je n'ai pas compris ce que tu disais? Jésus lui a dit, je t'ai donné l'autorité de chasser. Je ne peux pas faire ce que tu peux. J'espère que tu as compris ça. Fais ta part, Jésus fera sa part. Au nom de Jésus, alléluia.
Alors, là maintenant, il y a autre chose sur la pierre. Deuxième volet de la pierre. La pierre bloquait la sortie. Tant qu'il y avait la pierre, Lazare ne pouvait pas sortir. Donc, pour que Lazare sorte, il faut enlever là. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pierres dans nos vies qui nous empêchent le miracle. Ici, la pierre représente maintenant le péché. Tant que je vis dans le péché, le miracle ne viendra pas. Si j'ai le miracle, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne bénit pas dans le péché. Il faut que je dois ôter la pierre de l'incrédulité. Je dois ôter la pierre de la fornication. Je dois ôter la pierre du Congossa, la pierre de la jalousie, la pierre des traditions. Je dois ôter la pierre. Ôte la pierre au nom de Jésus. Il faut ôter cette pierre-là. Et quand la pierre sera ôtée, le miracle va venir aisément. Alors on va réfléchir. Là où tu es assis, là où moi je prêche, quelle est la pierre qui est dans ma vie qui empêche que le miracle se manifeste? Si je n'ai pas de pierre, alors gloire à Dieu, j'attends seulement le temps de Dieu. Mais s'il y a la pierre, ôte d'abord la pierre. Et là, Marthe va dire à Jésus, quand il a dit, on va lire la suite du verset 32. Non, 39, je vous en prie. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui répondit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours. Oui, il sent. Alors, voyons un peu comment on enterrait les gens à l'époque de Jésus. Quand tu meurs, il y a des aromates. On peut faire des aromates sur toi et autres. Mais seulement, on va t'emballer dans un linge.
Et ici, là, on te met dans une pierre. Et puis, on ferme l'entrée. Avec le soleil, la chaleur est multipliée par deux. Donc, le corps se décompose vite. Donc, comme Marthe dit, il sent déjà dans sa raison. Il a raison. Sur le plan humain, elle a raison. Il commence déjà à se décomposer. Mais seulement, il faut comprendre, ici nous sommes au niveau spirituel, alléluia. Et le spirituel appelle la foi. Nous sommes dans le domaine de la foi. Il sent déjà. Tu ouvres la pierre, tu vas nous tuer par des odeurs. Alors ce matin, je veux un peu dire ceci.
Peut-être que ton problème sent déjà. C'est resté longtemps, des années. Sentir ici veut dire les gens se moquent de toi. Oh, lui là, c'est fini, il ne va pas travailler, voilà l'âge qu'il a. Oh, mais il est tombé, il n'a plus, Jésus n'est plus là. Les gens vont se moquer de toi, donc ton problème commence à sentir déjà. Et ça fait des années. Mais écoute la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes au niveau de la foi, au niveau de la confiance. Aie confiance en Dieu, même si ça perdurait. Aie confiance en Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Moi, je te fais alors je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce dit vers la fin, ce n'est pas encore fini. Il y a des films qu'on voyait quand on était jeune, on dit fin de l'épisode, à suivre. Donc il y a à suivre. Ce n'est pas encore fini. Dieu va faire, ne t'est-ce pas dit que si tu crois, et là, on va ôter la pierre. Et quand on va ôter la pierre, Jésus fait une prière de la foi. Alors, verset 41, la partie B. Lisons verset 41. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce que tu m'as exaucé. Lazare est encore couché. Il n'y a encore eu aucun mouvement dans sa vie. Mais Jésus dit, tu m'as... Ah, peuple de Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. Je crois, la foi est une ferme action de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu, mais tu dois croire. Crois seulement. Dis à ton frère, crois seulement. Crois seulement. Oui, c'est la prière. Notre prière doit être accompagnée de la foi. Il dit, celui qui doute, dit Jacques, il est comme les flots de la mer qui vient. Et c'est un homme inconstant. Qu'il ne s'imagine pas, la suite du verset, qu'il recevra quelque chose de Dieu. Ne doute pas, ce matin Jésus te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia! Garde la foi. Donc la prière de la foi. Après il crie d'une voix forte, Lazare, sors! Pourquoi Jésus doit crier? N'est-ce pas, il est Dieu? Il peut dire doucement, Lazare, allez, vas-y, sors. Pourquoi il a crié? Ce n'est pas pour lui qui crie, c'est pour nous. Il nous donne un exemple. La mort est un ennemi et la parole de Dieu dit le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc, il prend autorité sur l'ennemi. Alléluia. Il faut prendre autorité sur le problème qui te dérange, sur le problème qui fait que tu manques de foi. Pourquoi tu continues à pleurer alors que Dieu t'a donné le pouvoir? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire.
Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'utilisent pas ce pouvoir-là. Ils nous donnent le pouvoir sur quoi? Sur la puissance de l'ennemi. Comment on peut comprendre ça? Voilà.
Alors, je prends juste un exemple simple pour essayer de matérialiser ce que je dis. J'ai acheté mon terrain et puis je veux construire sur mon terrain. Et il y a un homme qui est fort, plus fort que moi. S'il me tire, il va seulement me briser. Il est même plus riche que moi. Il peut jouer sur les relations corrompre les magistrats. Et moi, je suis faible devant lui. Mais j'ai encore une piste. Et puis, je fais recours à l'État ou même au président de la République. Et là-bas, on me signe un papier. Quiconque touchera ce monsieur sera jeté en prison. Le papier que j'ai, c'est le pouvoir. Même s'il a la puissance, mais j'ai le pouvoir. Ce monsieur ne peut rien faire contre l'État. De même, Jésus nous a donné le pouvoir. Pourquoi nous pleurons? C'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir
qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ça? Quelqu'un paie le billet du bateau. Et dans le billet, là, il y avait tout. Tous les frais sont compris, y compris la nourriture. Oh, il ne savait pas que dans le billet, il y avait la nourriture. Il est resté affamé. Pendant tout le trajet, il est resté affamé. Mais c'est pourquoi vous ne mangez pas? J'ai pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent? Montrez-moi votre billet. Il montre le billet. Mais votre nutrition est inclue dans le billet. Il a dit, aïe, aïe, aïe. J'ai fait 4 jours, j'ai même maigri. L'ignorance. Tu as le pouvoir, tu oublies que tu as le pouvoir. Et tu ne fais que maigrir. Chasse cela au nom de Jésus. Utilise ton pouvoir au nom de Jésus.
Et en ce moment-là, Jésus dit, Lazare sort. Lazare sort. Il est vivant. Mais qu'est-ce qui se passe? Lazare est vivant. Mais il sort les mains et les pieds liés. Bien qu'il est vivant, il y a encore un problème dans sa vie. Il est lié.
Jésus dit, déliez-le et laissez-le. Il y a beaucoup de gens qui sont encore liés. Tu es lié à la tradition. Bien que tu es en Christ, mais tu es lié. Donc ça veut dire que tu ne vas pas être libre. Tu es lié à beaucoup de choses. Il faut que tu te délies de cela. Tu te libères au nom de Jésus. Et tu auras la vie pleine en Christ. Tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas aller de gloire en gloire. Alors il faut couper tous les liens qui sont là. Déliez-le et laissez-le aller. Et on a vu le processus. Comment ça s'est passé? Un, il faut ôter la pierre. Pour voir la gloire de Dieu, il faut ôter la pierre. Deux, il faut avoir la foi. Trois, il faut faire preuve du pouvoir que Jésus t'a donné. Avec autorité, chasse cela. Quatre, il faut te délier de ce qui ne marche pas dans ta vie, de ce qui fait que tu puisses rester dans cet état-là.
Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
Je t'aimerai.
Jésus ne t'a pas oublié. Que le Seigneur se glorifie. Amen.